Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 21 du podcast de Hockey sur demande. Ça faisait un petit bout, on est de retour, toujours en compagnie de Stéphane Grenier d'Entrechum. Salut Stéphane.
Salut Max, ça va bien?
Yes, ça va bien. Je m'excuse d'avance pour l'éclairage, pour ceux qui se demandent pourquoi que j'ai l'air de quelqu'un qui est dans le fin fond d'un sous-sol. Ben, en fait, c'est vrai, je suis dans le fin fond d'un sous-sol, il manque juste de quoi pour éclairer. J'ai changé un peu mon setup, comme vous pouvez voir, je suis maintenant dans le coin, je me suis acheté un beau petit meuble en L. Fait un beau petit setup, mais là, il manque la lumière, malheureusement. Donc, on va régler ça au cours des prochaines semaines. On verra ce que les impôts vont dire.
C'est là, on commence à investir pour notre podcast, c'est bon.
Ça? OK. Écoute, ça sent bien notre affaire. Ça sent bien.
Oui, ça sent bien.
Écoute, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast, mais la formule ne changera pas. Donc, on va commencer avec coup de cœur, coup de pied de la semaine ou plutôt des dernières semaines. On va aller aussi avec quelques sujets là, à travers la LNH. On va revenir sur la dernière semaine du Canadien. Notre fameux segment aussi sur réception pour finir ça. Donc, le programme habituel, on ne change pas une formule gagnante. Stéphane, es-tu prêt à commencer ça?
Yes, sir, let's go!
OK, donc on va y aller avec le coup de pied, le coup de cœur et coup de pied de la semaine. On va y aller avec le coup de cœur en premier. Donc, je vais y aller avec le tien. Vas-y donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention de façon positive dans le monde du hockey?
Écoute, moi, je vais y aller avec nos deux équipes albertaines. Pourquoi? Parce que, écoute, les Oilers, depuis, je te dirais, une quinzaine de rencontres, sont tout feu de flamme. D'ailleurs, ils ont fait un petit hommage à un petit garçon. Je ne sais pas si ça a passé sur les réseaux sociaux, là, peut-être 3 semaines, 1 mois. Oui. Mais depuis ce temps-là, cette équipe-là a l'air d'être changée. Ils sont en mission, puis je suis content de voir ça. Quand même, 2e dans la Pacifique. Puis ils ont été vraiment clenchés au niveau des dernières rencontres. Fait qu'un petit thumbs up pour nos gars de McDavid puis nos Drysdale de ce monde. Je pense qu'ils vont entrer en série avec un bon momentum, ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Puis je pense que ça va être des grosses séries dans l'Ouest, malgré que l'Est est décidé. Puis l'autre côté, c'est Calgary. Calgary avec 101 points, 46 victoires. Pourrait rattraper les 50 victoires, mène déjà 3-1 ce soir contre les Blackhawks. Donc, prend une autre équipe à 50 victoires cette année. Puis je pense que ça fait du bien de voir qu'au Canada, malgré que dans l'Est, ça fait pitié, à part Toronto. Mais dans l'Ouest, on semble être un petit peu plus avantagé présentement avec les équipes.
Donc, j'ajouterais même Vancouver qui est dans la course pour restaurer une place en série. Eux qui sont partis de loin là, depuis le début de la saison, ça n'allait pas très bien. Depuis que Bruce Boudreau s'est amené là, eh bien là, tout a changé. Et je pense que l'équipe est sur une séquence de 6 victoires de suite. De genre, là, sont vraiment bien sur une belle séquence présentement. Donc, effectivement, dans l'Ouest, les équipes canadiennes qui vont assez bien, merci.
Ouais, c'est le fun de voir ça. Puis c'est un petit peu de thumbs up. On parle souvent du Canadien, des choses canadiennes, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent présentement. Mais c'est le fun de voir que l'équipe canadienne, les Canadiens vont peut-être être bien représentés, puis peut-être pour loin dans les séries cette année. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Bon, coup de cœur, ça s'est passé tout récemment. C'est Alexis Lafrenière parce qu'il a été laissé de côté la semaine dernière par les Rangers. Et le match qui est revenu, il a scoré 2 buts. Donc, belle réponse là, du côté de Lafrenière. Tu sais, souvent, on se fait laisser de côté, on a envie de bougonner un peu, puis ça prend du temps avant qu'on revienne là. À notre top, mais Lafrenière, lui, qui n'a pas perdu de temps dès son retour, a marqué 2 buts, dont un très beau contre tes pauvres Red Wings. Je m'excuse, Stéphane, mais ça a été un très beau highlight de la part de Lafrenière qui a démontré tout son talent. Donc, c'est pas grand-chose comme coup de cœur, mais je trouve ça le fun de voir Lafrenière rebondir après une nouvelle qui est poche un peu, se faire laisser de côté comme ça. C'est un choix premier overall, tu es censé avoir du temps de jeu pas mal. Malheureusement pour lui, avec les Rangers, c'est assez contingenté à l'attaque. Donc, il faut qu'il mange un peu son pain noir, malheureusement. Mais au moins, il a bien répondu suite à ce healthy scratch.
Ben écoute, c'est le fun de voir. Puis c'est surtout ça que ça sert, ces genres de choses-là. Je pense qu'il y a un message qui a voulu être passé au niveau de l'organisation, disant que, hey, choix de première ronde, il faudrait que tu fournisses un petit peu plus, je pense, un peu plus d'efforts. Puis malheureusement, être obligé de healthy scratch. Puis des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir aussi qu'Alexis Lafrenière a peut-être compris le message, va peut-être donner peut-être un petit peu plus d'ardeur au travail. C'est une saison difficile quand même pour lui. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Oui, c'est pas une mauvaise saison, mais il est encore jeune. Mais est-ce qu'on laisse plus de chance avec Lafrenière parce que c'est un Québécois? Je pense que oui. Donc, aura besoin probablement de mettre un petit peu plus de pain sur la table. Mais écoute, c'est pas fini. L'équipe est vraiment bonne devant lui, puis ils vont bien. On va probablement un petit bout en série aussi. Donc, c'est juste fun comme si de voir qu'il a pris la balle au rebond pour vrai, puis qu'il a fait un bon match après.
Maintenant, le coup de pied. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, mais de façon plus négative maintenant dans le monde du hockey?
Écoute, je ne sais pas si tu as vu la séquence de Esa Lindell contre Bertuzzo, la dernière rencontre des Stars contre les Saint-Louis, les Blues de Saint-Louis. Puis je vais mettre Tim Stutzel là-dessus aussi. Les fameuses pénalités qui se fait pas pour le embellishment, là, qu'on en parle toujours. Je sais que ça a sorti des médias il y a 2 semaines, mais moi, j'ai regardé les rencontres depuis 2 semaines, puis on dirait que c'est de pire en pire. Donc, mon coup de pied, c'est ça. Je pense que, malheureusement, ces types de joueurs-là, jeunes, futurs vedettes, peut-être, essaient d'amener quelque chose de plus ou d'attraper des pénalités. Je trouve juste que la Ligue nationale, là-dessus, doit sévir. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Faut pas commencer à jouer un jeu. Trop longtemps à Montréal, on a joué un petit jeu avec Gallagher, puis maintenant, regarde ce que ça a l'air. Donc, Gallagher pourrait faire la moitié de ce qui se passe dans ces équipes-là, puis être pénalisé tout le temps. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis, c'est pas un gros coup de pied cette semaine, parce que je trouve que ça va bien dans le monde du hockey c'est présentement, mais je trouve que ça met un petit flag noir sur ce qui se passe. C'est surtout que Tim Schuster n'est pas vraiment en forme cette année, là. Seulement 29 points en 55 rencontres. Donc, tu sais, c'est pas. Je trouve ça plate de voir ça. Puis, Esa Lindo, hier, est en train de faire des vols planés dans la bande avec Bertuzzo qui, à peine, faisait un double échec dans le dos. Donc, c'était assez drôle à voir. Là. Il va falloir que mène la National Service là-dessus. Là.
Moi, mon coup de pied, j'en aurais deux. C'est un petit, puis un vraiment plate. Là. Mais on va commencer avec le plus petit. C'est. Je vais aller avec le plus plate en premier. Tiens. On va y aller avec.
The worst first.
Parce que tu sais, on sait que. Malheureusement, Mike Bossy là, qui nous a quittés là, dans les derniers jours, je sais qu'on en parlait un petit peu plus tantôt. Mais il y a des gens, quelques jours auparavant, ou voire peut-être même une semaine, qui ont essayé de scooper un peu sa mort, malheureusement. Puis je trouve ça triste d'essayer de se faire un scoop sur une nouvelle de la sorte. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Fait qu'à tous ceux qui ont essayé de faire ça, ben shame on you pour de vrai, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est faisable selon moi. Là. C'est la vie privée d'une personne. On parle quand même de la mort d'une personne. On parle pas d'une blessure. On parle pas d'une transaction. On parle vraiment de quelqu'un qui perd la vie puis t'essayes de faire un scoop là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Fait que ça, c'est mon coup de pied vraiment plate. Puis mon autre coup de pied, Mathieu Berzal, qu'est-ce que tu fais? Ça aurait pas été un KSSA de la semaine. Retiens le chandail de Marner quand t'es assis sur le banc. Là, t'as une amende, je pense, de 2 500$, de quoi de même.
Ouais.
C'est quoi ça? C'est vraiment nécessaire de faire ça? T'es sur le banc, là. Come on. Là. Come on. Pour vrai, là.
Écoute, pour l'avoir joué vendredi passé, là, comme ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont su, j'étais au Canadien avec mon plus jeune, puis c'était les Islanders. Il n'a vraiment pas joué une belle game, Marzol. Il n'est pas reconnaissable cette année. Je sais pas si tu as regardé un peu les Islanders jouer cette année. Là.
Les Islanders, au complet, sont méconnaissables, pour vrai.
Oui, mais il y a quand même eu une bonne deuxième. T'sais, ils ont quand même été éliminés juste hier, là, malgré tout. Là. Ils ont quand même parti de très loin. Faut pas oublier qu'ils ont joué 19 matchs à l'extérieur avant de commencer à jouer à domicile. Mais structurellement, l'équipe, Barzal, c'est pour être le moteur offensif de cette équipe-là, puis il l'est pas cette année. Là. Moi, dans le match que j'ai vu, là, c'était très, très 3-0 par la peau des fesses en fin de troisième, puis c'était pas un bon match des Islanders. Là, du tout, le Canadien a dominé complètement les Islanders. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Barzal, mais t'as raison. Puis quand il s'est arrivé ça, cette scène-là, ça aurait pu être un que c'est ça, c'est vraiment maudit. Mais c'est comme, qu'est-ce que tu fais à faire ça? Ça n'a aucun sens. Puis écoute, pour revenir un peu sur Mike Bossy, malheureusement, il y a beaucoup de médias qui profitent des situations. Puis je pense que tu fais bien de le pointer dans ton coup de pied parce que c'est une chose qui ne devrait pas arriver. Non parce que c'est un Québécois ou que c'est un des meilleurs joueurs que joue en national, mais juste parce que c'est le fait que c'est un être humain. Puis je pense que c'est pas un scoop qu'on a besoin de savoir, anyway. Là, les scoops sont faits pour des choses, des échanges, comme tu dis, ou des déménagements d'équipe ou des affaires comme ça, ou des alignements de soirée, mais. Quand on parle de la mort de quelqu'un ou on parle de la maladie, surtout là, le cancer commence à frapper beaucoup. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont très actifs dans le national qui commencent à prendre des cancers et puis commencent à être malades. Donc, c'est pas le temps, je pense, de savoir qui va donner la nouvelle à la première. Puis si je peux ramener un coup de cœur sur ce coup de pied-là que tu as donné avec la discussion de Mike Bossy, c'est tous les autres réseaux sociaux, tous les autres réseaux de télévision qui ont vraiment attendu, confirmé plus tard, même je te dirais des heures après, et qui ont vraiment fait une belle honneur à Mike Bossy. Là, on en parlera peut-être pas tantôt parce qu'on en parle là, mais ils ont vraiment pris la balle au rebond aux autres ici pendant que d'autres médias s'acharnaient à vouloir trouver quand il mourait. Là. Très ordinaire, comme tu dis.
Bon, maintenant que ce bout plate-là est passé, on va enchaîner avec la semaine du Canadien, quoique c'est pas très positif.
Grosse semaine!
Écoute, il y avait 4 matchs à l'affiche cette semaine, 4 défaites, dont 2 là, que c'était pas chic. Au moins, le match contre les Islanders, là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. C'est vraiment... En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est Sorokin là, qui a vraiment là, bien gardé les buts. Le match contre Winnipeg, ça s'est terminé 4-2, mais tu sais, c'était moyen comme effort. Encore une fois, Columbus, je pense, au niveau effort, ça a été le pire match. Là. C'est, j'ai jamais vu une équipe soft de même. Depuis que Saint-Louis est là, c'était pas une équipe qui était hyper intense. Les Blue Jackets qui mangeaient tout rond.
Ouais.
Puis on a la défaite là, de samedi contre Washington, 8-4. C'était divertissant, mais c'était pas chic non plus. Comme,
c'était 4 après 2, là, mais comme ça va se
Et là, c'est un cinquième revers consécutif pour le Canadien. Là, il y en a d'autres qui disent est-ce que c'est l'effet Saint-Louis qui se termine. Mais tu sais, je veux dire, faut pas oublier, les Canadiens, ils n'ont pas une formation non plus extrêmement. Talentueux. T'sais, ils ont beaucoup de jeunes. Faut pas oublier ça non plus. Je pense que c'est juste les choses... Quand Saint-Louis est arrivé, on a eu un high parce que c'est la lune de miel. Je pense que la lune de miel est terminée présentement. Puis on voit un peu le Canadien à quoi ça ressemble. Puis c'est un club de 31e position. Je veux dire, je suis pas surpris à quel point le Canadien n'a pas de succès présentement. Tu regardes l'alignement, puis c'est ça. Ça manque plusieurs pièces majeures. Puis voilà, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Là.
Ouais, non, ça. Comme tu dis, c'est pas plus compliqué que ça. Puis il faut pas oublier non plus que oui, ils sont jeunes, mais en même temps, le Canadien de Montréal, là, se battent pas pour une place en série. Ils n'ont pas vraiment de pride présentement. Ils sont 32e ou 31e dans la ligue. Je pense qu'on veut juste former le futur, puis on fait jouer les jeunes en masse. Là. Donc, tu sais, je pense pas que le Canadien doit quelque chose. Martin Saint-Louis essaie de faire ce qu'il peut le plus possible avec son équipe. Le super effet Martin Saint-Louis, moi, ça me tape sinon d'entendre ça parce que la seule bonne chose qu'il fait Martin Saint-Louis, c'est de coacher. Puis je pense que présentement, les joueurs sont juste coachés au lieu d'être overthinkés depuis que c'était le début de l'année avec l'ancien entraîneur. Donc, laisse les joueurs jouer. C'est ça qu'on veut de toute façon. Que ça finisse 8-4 ou 3-1 ou 7-0, au bout de la ligne, ils sont derniers, ils ne feront pas les séries. Puis même si on aurait 7 défaites de plus ou 7 victoires de plus, ça ne change rien. Ça va juste perdre des joueurs à pêchage qui sont plus beaux au prix. Donc, ça, dans la semaine, ça a fait mal, mais on a eu des parties divertissantes. Puis je pense que les Canadiens ont moins nous divertis. Puis on voit qu'offensivement, ils peuvent quand même faire plus de buts. Puis quand c'est le temps de jouer défensif, ben, ils sont probablement un petit peu moins bons parce qu'on n'a pas de joueur vraiment qui est très bon défensif. Donc, c'est quelque chose qui va être travaillé dans les prochaines années. Mais de toute façon, il ne faut pas penser que les Canadiens de Montréal, l'année prochaine, vont être finis le premier dans l'Est. Là. On s'entend, là. Donc, c'est un processus à long terme, selon moi. Quand même qu'on a eu des bons matchs contre des bonnes rivalités. Mais, tu sais, moi, ça me stresse pas. Là. Pour vrai, la saison est finie. Amusez-vous pour les 7-8 prochains matchs, puis on en parle plus après.
Tu as eu l'occasion d'assister au retour de Carey Price au Centre Bell. Comment tu as trouvé Price dans ce match-là?
Très bien. Écoute, j'ai trouvé que sa jambe droite était pas à 100%. Il y a une couple de fois qu'il s'est relevé, puis il avait de l'air un petit peu sur ses talons. Mais ça n'a pas eu beaucoup de lancers en deux périodes, là, 10 lancers après deux périodes. Mon Canadien a quand même joué bien défensivement. Mais j'ai trouvé ça le fun, l'ambiance, l'accueil. Écoute, comme je t'avais dit, en parlant de Sashtex, mon petit gars, il était tellement excité de savoir que ça revenait là. C'était un petit gardien en plus. Là. Donc, on a fait une belle pancarte. Mais ça a été le fun, l'accueil. Même dans l'étirement ou dans l'échauffement au début, après ça, les joueurs, l'autre équipe qui ont resté à la fin de la game pour y sauter la bienvenue ou le bon retour. On voit que Carey Price, c'est pas seulement le Canadien. Je pense que c'est un...
Quand même Ovechkin aussi qui a donné
Ovechkin, dimanche,
il a donné le point sur son bloqueur à la fin de la game contre les Capitals. Donc tu vois que c'est un gardien qui est respecté à travers la ligue. Là.
Respecté, puis je pense que entre joueurs, ils savent qu'il n'y a peut-être jamais eu l'équipe devant lui pour gagner une Coupe Stanley aussi. Là. Donc c'est pour ça que l'année passée, l'effet Cendrillon fait mal à Carey Price. Puis en parlant encore aujourd'hui dans la conférence de presse, ça fait mal, puis ça va être difficile à en revenir parce que c'est probablement la seule chance qu'il aurait de se rendre là. Donc. J'ai vraiment aimé ça. C'était un bel accueil. Ça a été une belle façon. Puis je l'ai trouvé plus calme en entrevue. Même lâcher des jokes en disant que Sid, il était surpris que Sid ait écrit. Mais finalement, il n'est pas si surpris que ça. Mais il s'est repris en rien. Donc, je pense que ça va lui faire du bien. Puis je pense que les fans ici l'ont beaucoup critiqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ramené de Coupe Stanley. Mais n'oubliez pas que ça ne se fait pas tout seul. Puis c'est pas un gardien de but qui fait des buts. Mais il va les arrêter le plus qu'il peut. Puis je pense que ce job-là a été fait depuis les 10 dernières années. Mais au bout de la ligne, je pense que il faut pas se leurrer. Carey Price en a peut-être pour 2 ou 3 ans. 4, si tout va bien, s'il est quand même bien dans sa peau. Mais je pense pas qu'il va pouvoir donner une coupe Stanley à lui tout seul. Ça va prendre beaucoup d'apport des joueurs et de l'organisation.
Là, présentement, il reste quoi? Peut-être 6-7 matchs, peut-être un petit peu plus là, pour la fin de la saison. On fait quoi avec Carey Price? Est-ce qu'on lui donne le plus de départs possible? Est-ce qu'au contraire, on veut se le préserver, vu que tu as mentionné que, d'après ce que tu as vu, il n'a pas l'air d'être à 100% pour présentement. Est-ce qu'on essaie de le conserver plus ou si on veut lui donner plus de glace possible pour qu'il puisse reprendre le beat?
Moi, je pense qu'il va jouer 3 matchs sur 6, s'il en reste 6 à jouer. Et puis, je pense que Montembeau va jouer les 3 prochains. Je pense qu'on va le ménager. On va probablement le faire jouer contre Ottawa le samedi prochain, qui va être à Ottawa, donc il ne sera pas devant sa foule. On va probablement le faire jouer la dernière rencontre ici contre la Floride, le 29, juste pour dire qu'il joue la dernière rencontre. Puis moi, ça va jouer entre Boston et New York. Je pense qu'on va faire un 2-2, donc peut-être Boston le 24. Donc Montembeau jouerait le 23 ou peu importe. Mais je pense qu'il reste peut-être 3 matchs au nouveau à Carey Price, peut-être contre le Wild le 19 ou les Flyers le 21. Donc je pense qu'on va juste lui demander quand il veut jouer. Il va se remettre un petit peu en forme, puis il va travailler fort cet été, puis ça va revenir d'après moi. Là, oui, il avait de l'air un petit peu accommodé de sa jambe gauche, la jambe droite, mais comme je te dis, tu sais, c'est un retour pour la première fois dans la Ligue nationale. Puis tu sais, la Ligue nationale, ça va vite, là, peu importe, c'est pas de l'entraînement. Donc, je l'ai vu un petit peu là, mais à la fin de la game, il avait de l'air beaucoup plus à l'aise, faisait des belles arrêts. Puis du côté de Sorokin, on en a parlé tantôt un petit peu là, sur Sorokin. Honnêtement, j'ai vu Sorokin dans ma vie, là, mais un gardien de but aussi flexible, j'ai jamais vu ça. Il faisait la grand écart et la split à toutes les 2 secondes. Il a été incroyable dans ce match-là contre les Islanders. Mais tout le tour de nous autres, là, tous les fans, toutes les personnes qui avaient des billets en même temps que nous autres ont tout la même affaire. Mon Dieu, il est bien flexible. Les deux pads chaud, 2 poteaux, puis il n'y avait rien qui rentrait dans le milieu. Là, c'était incroyable. Vous regarderez les reviews si vous voulez ou les highlights, là, mais c'est impressionnant de voir ça. Carey n'a pas cette flexibilité-là là, que Sorokin a.
Oui, Sorokin qui devrait être le gardien là, des Islanders là, pour les années à venir. J'ai hâte de voir là, combien de temps qu'on va garder encore le duo Varlamov et Sorokin, mais tôt ou tard, là, ça va être lui le gardien numéro 1 là, du côté des Islanders. Bon, du côté du Canadien, cette semaine, 3 matchs à l'affiche. On a Minnesota, Philadelphie à domicile et à Ottawa samedi. Je pense que c'est la semaine où le Canadien peut peut-être en remporter le plus là, dans les matchs qui restent. Là, je veux dire, Minnesota, je pense que ça va être difficile, mais Philadelphie, ils vont vraiment pas bien. Non. Ottawa, c'est pas une équipe non plus très, très constante. Donc, moi, je pense que le Canadien peut remporter ces 2 matchs-là. Contre le Wild, ça va être plus difficile. Ouais, mais je pense qu'on va avoir une belle semaine là, du côté du Canadien.
Ouais, 2-3, c'est une bonne façon de le voir. Puis la prochaine semaine va être vraiment difficile. Là, les Bruins, les Rangers et les Panthers, là, je pense que ça va être...
Ouais, ça va être une grosse semaine assez rough. Là.
À moins que les Rangers reposent des joueurs ou les Panthers reposent des joueurs pour pas de blessure. Pour pas de blessure vu que c'est contre le Canadien. Mais je m'attends pas à ça. Là. Je pense que Huberdeau est en pleine course pour le trophée du plus nombre de points. Donc, c'est probablement que les gros guns vont être là. Si jamais il n'y a pas d'écart de 12 points, puis McDavid n'en fait pas 22 à soir, là, mettons. Là. Mais.
ouais.
On ne sait jamais, là, mais je pense que ça va être quand même des équipes complètes qui vont rencontrer jusqu'à la fin de l'année. Là.
Écoute, je veux qu'on parle de la course aux séries dans l'Ouest parce que ça va être assez intéressant à suivre là, pour les 2 prochaines semaines. Présentement, lorsqu'on regarde le portrait, on a l'Avalanche, les Blues, le Minnesota et les Flames qui ont confirmé leur ticket pour les séries. Ouais. Par la suite, là, dans la Pacifique, tu as les Oilers au 2e rang avec 94 points, tu as les Kings avec 90. Et présentement, dans les Wild Cards, tu as les Stars à 91 et les Predators à 91. Mais là, tu as les Golden Knights qui seraient exclus des séries si ça commençait aujourd'hui. On avait déjà parlé de une couple de semaines. Moi, je pensais qu'elle allait rebondir, mais finalement, ça va pas si bien que ça.
Wow. Vancouver
qui est quand même proche aussi. En fait, tu es à 7 points, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même faisable. Il faudrait que les Canucks continuent vraiment à être sur une lancée. Mais la lutte se fait surtout entre 3 équipes, là. Les Stars, les Preds et les Golden Knights. Comment tu vois ça pour terminer la saison? Est-ce que tu penses que ça va bouger ou si tu penses que les Golden Knights vont finalement entrer en série par la porte d'en arrière?
Oh, les Golden Knights, je veux pas y voir, là. non, honnêtement, j'aimerais ça que Dallas puis Nashville y aillent. C'est sûr qu'on aimerait ça que Vancouver y aille. Je pense que Vancouver, s'ils veulent mathématiquement y aller, il faut que ça leur prend 6 victoires sur 7 rencontres puis que Dallas en perde 5 sur 6, me semble, ou 5 sur 7. Donc, ça va être difficile. Nashville, j'aimerais ça pour Roman Josi juste parce que c'est une saison incroyable. Matt Duchene, même chose. Je pense que Nashville, cette année, nous a surpris. Ça serait le fun de les voir en série aussi. Mais au niveau de Vegas, moi, je ne veux pas les voir là. Ça serait du bien de voir que l'équipe d'expansion peut revenir sur Terre un petit peu. Là. Donc,
Surtout qu'en plus, depuis le début de la saison, ils mettent des joueurs sur la liste des blessés pour activer d'autres joueurs. C'est quasiment juste qu'ils attissent leur affaire. Là.
C'est ça. C'est, en bon québécois, là, c'est vraiment mal chier leur affaire. Là. Donc, moi, je trouve dans les trois équipes, ceux qui la méritent le moins. Il y a beaucoup de fans de Vegas présentement, donc c'est correct. Mais je pense que Dallas a travaillé fort pour ça. Puis je pense que Nashville aussi. Puis je serais content de voir ça. Dallas, Nashville pour moi.
Ouais, moi, honnêtement, c'est pas mal les deux équipes que je voudrais voir aussi. Nashville, c'est un peu une équipe cendrillon, entre guillemets, parce que on s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit aussi performant que ça. Les réveils, enfin, de Duchesne, de Johansson, Forsberg qui a une bonne saison aussi. Il aussi, c'est une saison phénoménale pour un défenseur là, de son côté.
Là. Points, là.
C'est n'importe quoi. Puis Saros qui fait bien aussi devant le filet, donc j'aimerais ça qu'il passe. Dallas. Honnêtement, je suis surpris que Dallas soit là. Je pensais qu'elle allait finir plus bas que ça, mais finalement, il y a des joueurs qui ont pris le relais. T'sais, on n'a pas vraiment vu les Radulov cette année. Seguin et Ben, c'est plus tranquille. C'est vraiment les Robertson, les Hintz de ce monde qui ont transporté cette équipe-là, les Pavelski.
Pavelski, c'est incroyable, pareil, là, à 39 ans.
Oui, on sent vraiment que le flambeau est en train de se passer là, du côté des Stars. Là, on est rendu avec des jeunes joueurs là, qui vont prendre le relais. Puis je ne sais plus c'est où j'ai vu ça. Mais je pense que les Stars ont deux ou trois prospects là, de la Ligue canadienne qui sont parmi les top là, pointeurs. Là, il y a Maverick Book qui connaît une grosse saison du côté de Shawinigan. Il n'est pas le premier pointeur, mais c'est vraiment dans les tops. Puis Logan Stankoven aussi du côté de l'Ouest connaît toute une saison aussi. Donc, en plus d'avoir des jeunes présentement dans l'équipe là, qui font bien, il y a de l'avenir aussi. Là. C'est sûr que du côté des prospects, c'est du vent un peu pour l'instant parce qu'il faut qu'ils soient capables de transposer leur jeu dans la LNH. Mais au moins, tu sais, il y a un peu d'espoir là, du côté là, des jeunes joueurs qui s'en viennent. Donc, vraiment, les Stars là, qui ont pris un second souffle avec les jeunes. Donc, c'est le fun de voir ça. Vegas, moi non plus, c'est pas une équipe que je veux voir là, en série. Surtout la façon qu'on s'est débarrassé un peu de Marc-André Fleury. Ça, je l'ai pris de travers un peu pour garder Robin Leonard qui, c'est correct, mais sans plus. Là, c'est pas... moi, je pense que j'aurais gardé Fleury si j'avais été les Golden Knights, mais bon, c'est pas moi qui est GM. Vegas, là, j'espère qu'ils vont rester là où ils sont présentement, c'est-à-dire hors des séries.
Ouais, je prends la balle au rebond pour les Dallas, pour les Stars. Tu as raison. Wyatt Johnston qui a 124 points en son début de
saison. Ouais, c'est Johnston aussi qui fait partie
avec
du groupe.
Avec la WHL, là, on a Logan Stankoven à 104 points en 59 rencontres avec les Blazers de Guadeloupe. On a aussi Antonio Strange dans la OHL avec les Knights à 84 points. Écoute, son décès, avec Book est 6e avec 54 points, seulement 27 rencontres par contre.
Ouais.
Mais on a aussi Connor Roulette, là, que moi, je n'avais pas vu venir là, dans la Ligue de l'Ouest à 66 points en 65 matchs. Puis on oublie souvent aussi, hein, on a un Québécois dans leur filiale de gardien aussi avec Rémi Poirier, qui est à l'Olympique de Gatineau, qui va quand même bien cette année avec 32 matchs joués. 2.34, 914 d'efficacité. Donc, comme tu dis, je pense que l'avenir s'en vient, mais on a des gros contrats peut-être à se débarrasser cet été ou de voir peut-être un petit peu moins important dans cette équipe-là. Mais moi, je pense que le Joker cette année chez Dallas, c'est vraiment Joe Pavelski. Personne s'attendait à ce qu'il y ait un point par match. C'est incroyable. Là. Je ne sais pas si c'est le fait que les jeunes avec lui, parce que Robertson et Hintz jouent avec. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'effet que qui a amené à cette équipe-là, mais c'est tout un effet. Puis comme tu dis, c'est un peu l'équipe Cendrillon. Là. Mais ce qui est drôle, c'est que Dallas et Los Angeles pourraient être les deux seules équipes à faire les séries dans le négatif au niveau du différentiel des buts et des buts contre. Donc ça aussi, il faut regarder ça. Là. Si on regarde les autres équipes, elles sont toutes plus 20 et plus. C'est incroyable. Donc l'équipe la plus proche en différentiel, c'est Edmonton à plus 29. Puis Nashville à plus 19. Après ça, c'est plus 40, plus 80, plus 88. plus 60, Floride est plus 99, donc c'est assez incroyable à voir comment que l'Est cette année s'est dessiné trop rapidement puis que l'Ouest est encore en bataille.
Du côté de l'Est, eh bien les jeux sont déjà c'est déjà tous joués là, toutes les équipes sont qualifiées, donc il n'y a pas vraiment de course. La seule question maintenant, c'est de voir à quel rang ils vont terminer. Par contre, je sais que tu voulais en parler tantôt, mais t'inquiète, là on va en parler tout de suite. On pourrait voir quelque chose d'assez incroyable là, d'ici la fin de la saison, soit quatre équipes dans la métropolitaine. En fait, quatre équipes dans l'Est tout court avec 50 victoires. On ne voit pas ça souvent. D'habitude, c'est une ou deux équipes dans toute la Ligue qui a 50 victoires. Mais là, on a les Panthers qui en ont 54, les Maple Leafs en ont 50, Tampa Bay, il en reste 4, Il en reste 7 matchs à jouer, donc il faut qu'ils remportent 4 de leurs 7 matchs. Les Hurricanes, il en reste 2. Les Rangers, il en reste 2. Les Bruins, il en reste 4. Donc, on pourrait voir quasiment 6 équipes avec 50 victoires dans l'Est. C'est assez incroyable.
Je sais pas, c'est comme je te disais tantôt avant le podcast, j'ai assez de voir la statistique, mais évidemment, on n'est pas statisticiens, là, nous deux. Là. Donc, ça va être difficile, mais pour la Lightning, écoute ça. Là. Détroit mercredi. Détroit demain. Toronto le 21. Nashville le 23. Floride le 24. Columbus le 26. Columbus le 28. Puis les Islanders le 29. Donc, tes 4 victoires, là, c'est Détroit, deux fois Columbus et Islanders. Là. Dans ma tête à moi, là, pour les 50 victoires. Ouais. Là. Donc, tu sais, Nashville va être quand même probablement plus facile que Toronto puis Floride, mais c'est faisable. Puis c'est bon que tu rentres Tampa Bay là-dedans parce que cette année, on les oublie un petit peu peut-être dans l'Est, mais moi, je pense pas avoir vu ça. Là. Si Caroline Rangers finissent à 50 victoires avec les trois équipes d'Atlantique à 50 victoires, puis peut-être même Boston à 50 victoires, moi, je pense pas avoir vu ça dans ma vie. Là. 6 équipes à 50 victoires dans une même conférence. Ça veut juste dire que l'Est, cette année, là, c'était incroyablement fort. Puis les Islanders n'ont pas eu de chance là, pour les playoffs. Il fallait qu'ils gagnent, tout le temps. Puis ils ont remonté la pente, mais la différence de points est incroyable. Là. 79 points les Islanders, puis la plus proche équipe, c'est 94. C'est 25 points de différence. Là. C'est complètement ridicule.
Non, c'est ça. Fait que dans l'Est, là, c'est plus une question de match-up qu'une question de qui va se qualifier pour les séries. Parce que présentement, les courses possibles, entre guillemets, encore là, il n'y en a pas tant que ça. Là. Je veux dire, t'as Toronto puis Tampa Bay qui peuvent s'interchanger 2 et 3. Après ça, t'as Boston qui pourrait là, s'inviter dans le top 3 aussi de l'Atlantique en dépassant Tampa Bay. Ils sont à 3 points. Sinon, dans
Pittsburgh,
la métropole...
Washington, parce que 97-94.
Oui, il y a Washington qui pourrait passer les Pingouins aussi, mais tu sais, puis la course entre les Rangers et les Hurricanes qui va finir premier dans la métropolitaine. C'est pas mal les courses qu'on a présentement, mais encore là, comme j'ai mentionné, c'est plus une question de match-up qu'une question de qui va se qualifier parce que tout est décidé déjà dans l'Est.
Oui, puis moi, j'en reviens au plus ou moins parce que je suis un fan des plus ou moins, là, mais c'est les buts pour Bucon dans l'Est, là,
les Panthers plus 99.
Ouais, le Canadien est moins 98, mais les 8 équipes qui sont classées en série sont positifs et les 8 équipes qui se classent pas sont négatifs. C'est quand même fou quand on regarde ça. Là. Donc, ça a été la débandade sur quoi? Détroit, moins 77, Philadelphie, moins 82, Montréal, moins 98, moins 59 pour Buffalo, mais ils ont quand même plus de points que Détroit, Ottawa, New Jersey. Ça a été, moi je pense, ça a été une autoroute d'un bord puis un trafic de l'autre. C'est vraiment du monde qui allait à Québec d'un bord puis l'autre arrivait à Montréal.
c'est un beau parallèle.
Ça a donné ça. C'est impressionnant.
Sinon, autre nouvelle dans la LNH, une grosse nouvelle en fait.
Ouais.
Ryan Getzlaff, qui est en son dernier tour de piste en fait, là, parce qu'il va annoncer sa retraite à la fin de la saison. Donc, un autre gros nom là, du repêchage, le fameux repêchage de 2003 qui va terminer là, à la fin de la saison. Bon, évidemment, Getzlaff, ça a été le capitaine là, des Ducks d'Anaheim pendant très longtemps. Il a joué aux Jeux olympiques aussi. Là, j'essaie de trouver un peu là, les titres qu'il a mérités. On parle, bon, il a gagné la Coupe du monde, la World Cup là, en 2016-2017. A participé au match des étoiles en 2014-2015. A terminé les séries avec le plus de passes aussi en 2014-2015. Ensuite, 2013-2014, a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles de la LNH. Une médaille d'or de son côté aussi aux Jeux olympiques. Même chose en 2009-2010. 2009 a été nommé au match des étoiles. 2007-2008, grosse année pour lui. A été nommé au match des étoiles. A terminé au championnat du monde avec le plus de passes avec 11. A terminé avec une médaille d'argent au championnat du monde. Et a terminé dans le top 3 des meilleurs pointeurs de son équipe là, dans le championnat du monde. 2006-2007, évidemment, la Coupe Stanley. Donc, vraiment une grosse carrière. Il a joué au championnat du monde de hockey junior aussi. Il a eu une médaille d'or en 2004-2005. Ça, c'était la grosse année, si je ne me trompe pas, avec les Crosby Bergeron là, qui avaient joué à ce championnat-là. Non, vraiment une belle carrière. Puis on parle aussi d'un joueur qui a joué plus de 1000 matchs dans la LNH. Il est à 1154 précisément présentement, 1017 points. Un monument qui va quitter là, la LNH d'ici la fin de la saison.
Oui, puis c'est un gars qui a été passé sa vie à défendre ses coéquipiers. On l'oublie souvent, mais il y a quand même presque de 1000 pénalités, donc 958 minutes de pénalité. Donc, c'est un gars qui n'a jamais eu peur de brasser la cage puis de dropper les gants. Un peu dans le même moule que Corey Perry. Puis on a vu au dernier match entre les deux, là, quand Anaheim a affronté le Lightning, ça a été très émotif pour les deux. Ce que je trouve le plus surprenant, je pense qu'au niveau de Ryan Gesler, on s'est rendu compte qu'on traînait un petit peu de la patte cette année. On n'avait peut-être pas la même intensité sur la glace, pas le même désir non plus. Seulement joue 53 rencontres, 35 points, seulement 3 buts. Donc, je pense qu'on a ces 10 gardes, on a soumis de se retirer dans le bien, on se retirer dans le mal. Donc, je pense que c'est plus pour ça cette année qu'on se retire à juste 36 ans. Il y a des joueurs de 36 ans qui sont encore performants avec National. Mais comme tu dis, 2003 a été un draft assez exceptionnel au niveau de l'année nationale. On a eu des gros noms qui ont sorti, le Ryan Suter, Dion Phaneuf, on a Jeff Carter, on a Dustin Brown, Zach Parise, on a Marc-André Fleury qui est sorti en premier. Donc, c'est un draft qui va avoir passé à l'histoire, je pense, puis qui va avoir fait du bien à l'année nationale. Mais comme je te dis, je pense que c'est un gros monument qui s'en va à Anaheim, mais la relève est là. Donc, je pense que la relève s'en vient, puis on est en mode reconstruction à Anaheim. Surtout que le DG qui malheureusement est parti. Donc, c'est le fun de voir. C'est le fun de voir qu'il le dit aussi peut-être une vingtaine de matchs avant de partir. Donc, ça va donner le temps aussi de dire salut à tout le monde puis aux joueurs qui vont jouer contre.
Bon, il ne faudrait pas être surpris aussi qu'il revienne dans le monde du hockey, là, que ce soit soit au niveau du scouting, au niveau du coach. Honnêtement, je pense que les Ducks pourraient y offrir quelque chose par la suite, là, avec tous les services qu'il a rendus à cette équipe-là. Je ne serais pas surpris de le revoir rapidement dans le monde du hockey.
Je pense que déjà, il y a déjà probablement un contrat sur la table pour voir ce qu'il va faire après. Je ne serais pas surpris de ça.
Possiblement. Je serais pas étonné, maintenant.
Effectivement.
Stéphane, on va passer avec quelques sujets que tu voulais passer en rafale. Je te laisse y aller avec ce que tu voulais mentionner. Qu'est-ce qui s'est passé dans la LNH? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du hockey en général?
Écoute, on va y aller rapidement. Deux petits sujets rapides. Moi, j'ai beaucoup accroché depuis 3 semaines sur Chris Pronger. Là, c'est créé un Twitter il y a 3 semaines pour parler de son fameux combat entre les joueurs en faillite ou qui manquent d'argent pour leur carrière. J'ai été mitigé un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai regardé des personnes que je connais en parler. J'ai un peu fait de questionnements sur Twitter. Pas sur mon Facebook, mais sur mon Twitter, savoir qu'est-ce que le monde en pensait. C'est surprenant de voir comment qu'il n'y a pas personne dans le milieu, mais tout le monde est pour ou contre. Donc, il y en a autant qui vont dire « Ah, qu'ils ne me fassent pas broyer, ils ont gagné 5 millions par année. » Puis il y a d'autres qui me disent « Ah, il faudrait penser à faire attention aux autres. Y a-t-il un programme national pour les aider? » Parce que c'est vrai qu'il y en a qui malheureusement, toute leur vie dépensent comme des malades. Puis quand ils arrivent à 32, 33, 34 ans, puis ils prennent leur retraite, ils n'ont plus d'argent. Donc, je pense que c'est un combat noble du côté de Chris Pronger, qui est encore d'ailleurs payé en Ligue nationale présentement. Donc, où il a fini l'année passée ou cette année, je pense, d'être payé. Donc, lui aussi a été obligé de se retirer à cause de problèmes de santé. Donc, je voulais l'annoncer. C'est quelque chose que je vais suivre les prochaines semaines en espérant que ça continue. Mais encore aujourd'hui, il disait merci à ses followers, là, des personnes qui l'aident à trouver des archives puis à sortir des statistiques. Donc, je pense que c'est un combat que Chris Pronger fait présentement. Puis, il faut prendre ça à la légère non plus.
J'avais vu un thread qu'il avait fait récemment là, disant quand un joueur gagnait 5 millions par année, ouais, ça c'est son contrat, mais qu'en bout de ligne, il y avait telle dépense, telle dépense, telle dépense, telle dépense. Oui. Fait qu'en bout de ligne, il y avait, évidemment, il y avait un bon salaire pareil, mais tu sais, c'est pas 5 millions que tu te mets direct dans les poches. Là, il y a plein d'affaires. C'est sûr que des fois, il y a des prix qui exagèrent un petit peu. Là, quand il a dit 72 000 $ pour un véhicule, on s'entend que c'est pas nécessaire de mettre 72 000 $ sur un char, là, mais tu sais, je comprends un peu le principe que. Que tu sais, oui, tu gagnes peut-être 5 millions, mais qu'en bout de ligne, il va t'en rester tel montant, puis qu'il y a beaucoup de dépenses qu'il faut penser aussi entre-temps. Fait que non, c'est assez intéressant à suivre ce thread-là. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur Twitter, puis cherchez Chris Pronger, puis regardez ça, là, ce qu'il mentionne, toutes les dépenses. Là, des fois, c'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement aussi. Mais en même temps, tu sais, on s'entend qu'ils font quand même plus de cash que nous autres, mais ils en font peut-être pas plus que qu'est-ce qu'on pense. Je pense que c'est peut-être plus proche. Que qu'est-ce qu'on peut le penser, là, même si le gars signe un contrat de 6 ans à 5 millions par année. Là.
Ouais, je suis d'accord. Puis ça a fait le saut, je pense, son premier trade a fait mal le 14 avril, disant que 50% des joueurs retraités ont des problèmes financiers. Donc, je pense que c'est ça qui a fait exploser un peu la twittosphère. Là. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine, comme tu dis, puis je trouve ça intéressant. Mon dernier sujet, ça va être Connor Bedard. On va parler un peu de notre futur Canadien ici, là. Parce que le Canadien de Montréal aimerait beaucoup ça le repêcher l'année prochaine. Donc...
Oui, il va peut-être... La seule chose que j'espère pour lui, c'est qu'il ne se ramasse pas dans l'aréna de 5000 personnes en Arizona. Ça,
ah,
là... Ça moi, je pense que ça va être gâchis, là, pour vrai. Là. sais, la seule raison pour laquelle j'aimerais quasiment que les Coyotes aient le premier choix cette année, c'est qu'au moins ils vont être sûrs de ne pas l'avoir l'an prochain à cause de la nouvelle règle de la loterie et tout ça. Parce que pour vrai, là, avoir Connor. Mais en même temps, je dis ça, mais ça serait le joueur pour relancer le marché de l'Arizona, ça c'est
probablement.
Sûr. Probablement. Sauf que je trouverais ça tellement plate qu'il se ramasse là, pour vrai.
Donc, je mentionnais Connor Bedard, non seulement parce qu'on pense qu'il va être repêché par l'Arizona, mais parce que quand même, il établit une nouvelle marque. 50 buts pour une recrue dans la WHL avec les Pats de Regina. Donc, a marqué son 100e point. À titre d'exemple, à l'année recrue de McDavid, a marqué 98 points.
En fait, c'est pas l'année recrue. Je pense que c'est son année de 17 ans parce qu'il avait joué l'année passée aussi du côté de la WHL vu qu'il a eu le statut exceptionnel. Je pense que c'est la meilleure production pour un joueur de 17 ans, si je me trompe pas.
Il y a 16 présentement, mais bon.
Bon, mais je pense qu'il joue sur son année de 17, dans le fond.
OK. Fait qu'en tout cas, 100 points, c'est quand même exceptionnel pour un joueur de 16 ou 17, là, dépendamment de comment on le voit. Mais c'est assez exceptionnel. Puis je pense que c'est un bon futur national. Tu sais, j'amène ce sujet-là parce que je pense qu'à chaque 10 ans, on a une prochaine vedette qui arrive. On a eu Sidney Crosby, v'là 15-16. On a eu McDavid, v'là 5-6. Et là, je pense que le talent est tellement bon dans la Ligue nationale à cette heure que les joueurs, après 6-7 ans, ont envie d'avoir un genre de phénomène qui vont apparaître. Donc, intéressant. Je vais le suivre de plus en plus. C'est quelque chose qui me fait accrocher au hockey junior, ce que j'accroche pas habituellement. Mais c'est le genre de personne ou le genre de chose qui me fait accrocher. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec lui l'année prochaine. Il faut se dire aussi que dans la WHL, les joueurs sont quand même 62, 63 rencontres par année. Donc, c'est le fun à voir qu'est-ce qui va arriver là, avec eux autres.
Et d'ailleurs, il y a un joueur là, dans la OHL qui a obtenu récemment le statut de joueur exceptionnel. Je vais juste aller voir un peu à quoi ça ressemble, là, ces stats. Là, c'est Michael Misa. C'est un joueur qui a présentement 15 ans, si ma mémoire est bonne. Je vais juste vérifier pour ne pas dire n'importe quoi. C'est un joueur qui a présentement 15 ans. Il a joué cette année. Mais en fait, il n'a pas joué cette année. Ça, c'est un peu bizarre. Mais il a joué dans la OHL Cup. Il a eu 20 points en 7 matchs. Avec les Sénateurs de Mississauga, ça c'est le U16 dans le 3A.
Ouais.
20 points en 7 matchs. Donc, il a obtenu là, le statut de joueur exceptionnel. Il y a John Tavares qui l'avait eu dans la OHL. Il y a aussi Sean Day qui l'a eu. Ça a moins bien viré cette histoire-là, ouais. Sean Day. Mais,
Michael Misa, c'est ça?
Oui, Michael Misa. J'ai pas compris. Donc, Michael Misa. On va surveiller. Il appartient. Bon, j'ai oublié de checker à qui il appartient. Ah, ben, sûrement qu'il va être repêché cette année. Par contre, j'imagine, ou s'il y a des joueurs qui sont repêchés. On va aller checker ça.
C'est pas les Sénateurs.
Ouais, ben, je vois que les Sénateurs de Mississauga, mais ça, c'est dans le 3A, c'est pas dans la OHL. Là, j'essaie de trouver par qui a été repêché, mais je pense que ça va être son draft cette année, si je comprends bien.
Je pense que c'est son draft cette année, ouais. Il n'y a pas d'équipe encore qui l'ont.
Exact. Donc, ça va être un joueur qui va être à surveiller. Est-ce que ça sera un futur John Tavares ou un futur Sean Day? On verra dans plusieurs années, mais on n'accorde pas souvent ce statut-là de joueur exceptionnel. Donc, il faut qu'on l'accorde. J'imagine qu'on a vu quelque chose du côté. Je pense que c'est Hockey Canada qui décide ça pour les statuts exceptionnels.
Ouais.
Fait que, à surveiller. On verra bien dans la OHL l'an prochain.
On oublie souvent que Shane Wright y était aussi. Là. Donc, c'est un joueur plus récent pour nous autres.
Oui, c'est vrai. Shane Wright aussi. Je sais que tu avais dit que tu avais deux sujets, mais il y en a un autre aussi qu'on voulait discuter. C'était Rasmus Dahlin.
Oui, effectivement.
Qui a connu une belle saison cette année du côté de Buffalo. Très content pour lui parce que je sais que. Ouais. Pas l'an dernier, je pense, mais il y a deux ans, ça avait été plus mollo un petit peu. Là, on se questionnait dans son cas. Mais là, cette année, il y a une belle saison là, du côté de Buffalo. Puis je pense même que tu as une stats depuis un bon bout dans son cas.
Oui, effectivement. Donc, tu sais, dans le fond, Rasmus Dahlin est un joueur quand même un choix de première ronde de Buffalo en 2018. Puis comme tu dis, il a connu un lent départ. On dit lent départ, il a quand même connu 44 points puis 40 points ces deux premières saisons avec les Sabres de Buffalo. Là. Donc, on met ça en perspective. Fini seulement moins 13 et moins 7. Et là, l'année passée, c'était un peu la débandade avec les Sabres. Là, finalement, moins 36 en 56 rencontres. Mais cette année va bien. 76 rencontres. Il joue tous les matchs cette année des Sabres. Il a finalement marqué... Ben, en fait, il y a eu une passe sur le but du match, le but aujourd'hui. Donc, 50 points pour Rasmus Dahlin. Puis ce qui me surprend le plus, c'est que c'est le premier défenseur depuis 95-96 à faire ça. Donc, ça fait quand même un petit bout avec les Sabres que... On mange le pain noir avec nos défenseurs puis notre équipe offensive. Mais je pense que de plus en plus, cette équipe-là monte vers le haut tranquillement. Et je pense que l'organisation fait un bon travail. Mais je suis très, très content de voir Rasmus Dahlin progresser comme ça. C'est un joueur qui était vraiment exceptionnel au niveau de la Suède quand il était là dans le championnat mondial junior et dans dans quand il joue avec les hommes là-bas. Donc, je suis vraiment content de voir comment ça va pour Rasmus Dahlin.
D'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui était ce fameux défenseur en 96-96, il s'agit de Gary Galley, qui avait eu 54 points en 78 matchs avec la défensive des Sabres de Buffalo. Et fun fact, c'était Pat Lafontaine qui avait terminé au premier rang des pointeurs de l'équipe avec 91 points. Donc, ouais. Pat Lafontaine qui avait eu une belle saison cette année-là.
Attends qu'on accrochait tout le monde.
Des Sabres, ouais, effectivement.
Donc, deux mentions honorables rapides cette semaine, comme mes mentions honorables à chaque semaine que je fais ou à chaque podcast. Donc, une nouvelle dernière minute qui est sortie, il y a peut-être une heure et demie. Les Capitals vont revenir avec le fameux aigle comme logo sur leur chandail. Donc, moi, je suis très content. C'est un logo que j'adorais quand j'étais jeune. Donc,
est-ce qu'ils vont revenir avec leurs anciennes couleurs ou s'ils vont garder leurs couleurs actuelles?
Ça viendrait avec les anciennes couleurs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si on va...
Comme dans le début d'Ovechkin.
Exactement. Donc, j'ai hâte de voir si on va adapter les couleurs avec un nouveau chandail ou un nouveau design ou on va vraiment aller avec le classique de là, les 15 à 16 dernières années. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et l'autre que je te disais un peu avant le podcast qui m'a surpris aussi, j'avais vu ça dans le passé, la semaine passée, c'est que Nick Suzuki, le centre du Montréal, du Canadien de Montréal, n'a jamais manqué un match depuis le junior. Donc, c'est assez exceptionnel. Ce joueur-là n'a pas pogné la COVID, n'a jamais été blessé, jamais malade, n'a pas de grippe. Donc, il n'y a pas de virus. Donc, tout ce qui arrive à Montréal ne passe pas par Nick Suzuki. Et c'était la même chose dans le temps, dans le junior. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est une petite chose qui a passé, qui m'a fait relire la page une deuxième fois pour être sûr que je comprenais bien.
Ah, ce côté de Suzuki, au moins, c'est le fun. C'est un joueur qui est fiable de ce côté-là. Je sais qu'il y a eu des traitements récemment et tout ça, mais effectivement, il rate jamais de match. Donc, un vrai homme d'affaires, ce cher Nick. Et tant mieux s'il n'attrape pas la COVID. Comme ça, on va être sûr de ne pas... De ne pas le voir manquer des matchs inutilement.
Exact.
Écoute, on serait prêt à passer au segment sur réception, mon cher?
Les choses sérieuses.
Les choses sérieuses. J'attends tes questions avec impatience.
All right, question numéro 1. On a parlé un petit peu tantôt, on a glissé un mot de Jonathan Huberdeau, 108 points en 73-74 rencontres. Donc, une saison assez exceptionnelle pour lui. Ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il pourra connaître d'autres saisons de 100 et 110 points? Entre 100 et 110 points et plus, au cours des prochaines années, ou c'est juste cette année, les Panthers sont vraiment très dominants, puis c'est là que ça se passe?
Moi, non, je pense que c'est le début d'une belle ère là, du côté des Panthers. Donc, honnêtement, je ne serais pas surpris là, de le voir connaître d'autres saisons de la sorte, même que je pense que dans le passé, il avait déjà passé proche. Là, je vais regarder.
Là, pas dire 92 en 2018-2019.
C'est ça, donc c'est pas une question. T'sais, même l'année passée, il y avait 61 points en 55 matchs, donc il y avait plus qu'un point par match avec les Panthers. Donc, non, moi, je pense que Huberdeau, tant qu'on lui garde la chaise qu'il a présentement, moi, je pense qu'il peut produire d'une façon assez incroyable. Donc, je l'espère. Parce que, tu sais, les attaquants québécois de premier plan, on n'en a pas tant que ça là, au niveau de la LNH. Là, on en a un. On a peut-être Lafrenière s'il débloque. Là. Fait que ça fait du bien de voir des produits québécois qui performent très bien dans la LNH. Puis, il était temps aussi pour les Panthers. Là, je fais une parenthèse à part, là, mais il était temps du côté des Panthers qu'on ait du succès. Là, parce que je sais que ça n'a pas été facile justement pour Huberdeau qui avait hâte de jouer des matchs de série. Ça a été long. L'année passée, ils ont eu toute une lutte avec le Lightning, mais ça s'est terminé au premier tour. Là, cette année, ils ont une très belle équipe pour aller loin. Puis je leur souhaite là, vraiment qu'ils aillent loin parce que ça ne peut pas que t'aies pas gagné encore cette année. Toi, Kucherov est assez divertissant, mais sinon, pour le reste, je préfère Huberdeau.
Pas grave. Non, c'est un bon point que tu amènes. Puis cette question-là est aussi pour féliciter Huberdeau. Je pense que de se battre avec les deux monstres à deux têtes là, de Edmonton, puis il y en a Johnny Gaudreau aussi à 105 points qui fait des flamèches avec les Flames. Donc, juste pour dire qu'il fait des flamèches avec les Flames, c'était beau.
Tu voulais juste plugger ça.
Ça. C'était marqué dans mon titre. Ça
va. C'est fait un post-it, genre, flamèche.
Non, mais en fait, je suis très content. Écoute, c'est deux milestones aussi qui sont le fun. Le 600 points en carrière pour Jonathan Huberdeau cette semaine et les 400e passe aussi. Et là, il est à deux buts de faire le 200e but de sa carrière. Donc, c'est assez exceptionnel de voir que ça a débloqué. Quand même, pas tard, je te dirais, mais quand même 28 ans. Donc, s'il commençait à être temps, mais je pense que là, on est vraiment embarqué dans le bon wagon avec les Panthers, comme tu dis, puis ça va être bon pour les prochaines années. Donc, très content de voir ça pour Jonathan Huberdeau. L'autre question. Qui pourrait, selon toi, sans compter cette année, parce que là, Roman Yossi est proche de faire 100 points, si on exclut cette année, qui, selon toi, pourrait être le prochain défenseur à marquer 100 points dans la Ligue nationale?
Cale Makar.
Cale Makar?
Sans hésiter.
Penses-tu qu'il va se rendre à 100 points?
Ça va être dur. Tu sais, je veux dire, c'est pas une marque qu'on voit tellement souvent. C'est parce que du côté de Nashville, l'affaire, c'est que l'offensive, c'est bizarre à dire, mais elle passe un peu par lui aussi, même si c'est un défenseur. Tu sais, c'est lui qui quand même qui crée les jeux et tout ça. Mais au Colorado, il y a tellement de talent là que...
Ça, je me dis, parce qu'en 71 rencontres, il y a 82 points. Je me dis, s'il devrait le faire, c'est dans les prochaines années. Parce qu'il
y a McCart, pas jamais. 82 points?
Oui.
Je pense que c'est le plus plausible, ça serait lui.
Kyle McCart?
Ouais.
Est-ce que tu penses que ça va se faire?
Je sais pas, on dirait que cette année, j'ai l'impression que c'est une saison un peu spéciale.
Tellement,
écoute, 6 équipes à 50 victoires du côté de l'Est. Il y a quand même plusieurs joueurs qui flirtent avec le 100 points. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais on dirait que ce n'est pas une saison ordinaire. Parce qu'habituellement, des statistiques comme ça, on n'en voit vraiment pas souvent. Un défenseur qui va avoir 100 points, on ne voit pas ça souvent. Là.
Non.
J'ai pas l'impression que ça va arriver.
La Ligue nationale a enfin découvert qu'elle faisait plus de buts. Est-ce qu'on a vraiment changé les règlements assez pour qu'il y ait plus de buts? C'est peut-être ça aussi, parce que défenseur, regarde, là, on
mais
a 88 points avec
Kyoto. Qu'est-ce qui a changé dernièrement qui pourrait expliquer ce boom-là? Tu sais, je veux dire, on n'a pas changé grand-chose.
C'est peut-être, je sais pas. Tu sais, Victor Hedman a quand même 72 points aussi. Victor Hedman, on est habitué de le voir avec des points, mais 72 points pour Victor Hedman. Après ça, on a Adam Fox à 68, Carlson avec Washington à 67. C'est quand même 5 défenseurs dans le top 50. Là.
Mais ça, je te dis, c'est pas une saison comme les autres cette année, c'est bizarre. Les statistiques, c'est weird. Même les joueurs qui ont 50 buts, là, il y en a une couple aussi qui devrait arriver à 50 buts cette année. D'habitude, on en voit un ou deux par année.
Mais comment? Tout le monde savait que Chris Kreider ferait 50 buts.
Ouais. Ah oui. Écoute, tout le monde l'avait prédit.
Vishkin est quatrième avec 47. Ça se peut qu'il fasse même pas 50, on sait même pas. Je te dis. Bon, troisième question. Qui reformera une équipe gagnante le plus rapidement? Ottawa ou Montréal?
Oh, boy. Oh. Hey, ça, c'en est une bonne, ça. Ottawa a un peu d'avance sur le Canadien présentement parce qu'ils ont eu plus de choix top 10. Tu sais, vraiment des bons choix, là, tôt. Dès maintenant, ils sont déjà dans la formation. T'sais, on a Studio, on a déjà Brady Tkachuk. Puis je pense qu'Ottawa a une meilleure banque d'espoir présentement que le Canadien. Mais là, le Canadien, cette année, ils ont un shitload de choix au repêchage. L'année prochaine, ils ont deux choix de première ronde aussi. Mais je vais dire, vu qu'Ottawa ont déjà choisi pas mal leurs joueurs là, je dirais Ottawa. Mais le Canadien devrait suivre par la suite pas trop longtemps après. Lorsque Ken Hughes aura fait ses choix et que ces joueurs-là vont embarquer là, dans le roster, on devrait avoir une équipe qui a de l'allure. Mais Ottawa, tu sais, le processus est déjà entamé, là. Alors que le Canadien, ils vont le commencer, entre guillemets. Là.
Puis on se donne, mettons, combien de temps tu penses à Ottawa pour devenir une équipe? Tu sais, mettons, aller en série régulièrement. 3, 5, 2?
Ben, honnêtement, à partir de l'année prochaine, il faudrait que ça commence à avoir des résultats du côté d'Ottawa. Là, parce que ça fait quand même un bon 2-3 ans déjà qu'on a entamé cette reconstruction-là. On a deux choix top 10, d'ailleurs, comme j'ai mentionné. Là, tu as Jake Sanders. En fait, trois choix top 10 parce que tu as Studzo, tu as Tkachuk, puis tu as Sanderson qui va arriver l'année prochaine. Moi, je te dirais, l'an prochain, ils ne feront pas les séries, mais il faudrait qu'ils commenceraient à se battre pour une place. Tu sais, qu'ils finissent pas encore dans la cave là, au classement. Puis, mettons, pour les voir régulièrement en série, je leur donne peut-être 2-3 ans encore là, pour le temps que justement les Sanderson se développent. Les défenseurs, des fois, c'est plus loin un petit peu.
Ouais, bon,
devant le filet, ils n'ont pas vraiment leur gardien numéro 1 de trouver non plus. Ça, c'est une autre affaire. Fait que peut-être encore 2-3 ans.
OK, non, c'est bon. Fait que Montréal, tu lui donnes un 4-5 avant qu'il soit rendu là. Si je me fie à ce que tu me dis tantôt.
Ouais.
OK, c'est bon.
Mais encore là, ça dépend qu'est-ce que Price va faire.
Pour empêcher, ouais, c'est tout en souci.
Parce que si Price est là, ça va aller plus vite. Mais le jour où ce que Price débarque, là, le Canadien est dans la boîte parce que Caden Primo n'est pas encore prêt. Montembeau comme backup, OK, mais pas numéro 1. Jake Allen, il y a prouver que numéro 1 à long terme, c'est pas sa tasse de thé non plus. Mm-hmm. Fait que dès que le Canadien a plus son gardien, là, on est dans des autres troubles chez le Canadien.
Ouais, je te comprends. Puis on n'a pas repêché de bon gardien de but depuis longtemps non plus. Donc, c'est sûr que ça l'aide.
Ben, il y en a qui font bien dans la NCAA présentement, mais est-ce que, tu sais, Jakub Dobus, qui je pense, a été nommé gardien de l'année ou quelque chose du genre. Mais, tu sais, encore là, Si vas-tu vraiment transposer ça rendu chez les professionnels? Ça, c'est une autre affaire. Il y a un autre gardien aussi au Danemark, là, Frédéric Deschard, là, qui n'a pas eu une bonne saison aussi cette année, mais encore là, tu sais, à quel point que ça va se transposer en Amérique du Nord et tout ça. Fait que tu sais, ils ont pas. Puis tu sais, même Kaden Primo, il a bien starté quand il était pêché avec le Canadien, mais je trouve qu'il en repeint un peu dans les dernières saisons. Je le vois aller des fois avec le Rocket, puis c'est pas tout le temps facile. Là. Il y a une game, je pense, la semaine passée. C'était 3 tirs, 3 buts ou 4 tirs, 3 buts là, pour commencer la game. Rocket ont finalement monté ça, puis je pense qu'ils ont gagné. Mais le début, puis tu sais, c'était pas des buts qu'il n'y avait aucune chance. Là. Il y a des tirs qui n'auraient pas arrêté là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Primo, mais pas que j'y crois de moins en moins, mais on dirait que j'ai plus de réserve un peu dans son cas.
On dirait qu'avec Primo, on est on n'a pas la constance espérée. Puis quand il fait 4-5 matchs de suite, bien. Le cinquième, le sixième ou le septième sont catastrophiques. Donc, je te comprends là-dessus. Là. C'est quelque chose qui va être beau à voir dans les prochaines années.
Dernière question. Juste pour terminer avec Primo, ce qui est un peu tannant dans son cas, c'est que c'est un peu dur aussi pour lui de garder une certaine constance. T'sais, il goal 3 games, il se fait rappeler à Montréal parce qu'il y a un blessé. Là, il joue même pas là-bas. Il est sur le banc pendant 4-5 games. Il est renvoyé à Laval. Il en joue 3-4. Il est rappelé encore. Il joue pas. C'est une saison un peu spéciale pour Kaden Primo. On pensait qu'on aurait pu avoir là, une saison complète avec le Rocket, qui aurait juste le Rocket pour se concentrer, mais il a fait la navette tellement souvent que
ouais, puis en plus,
c'est dur de garder le beat avec ça.
Ouais, puis quand tu joues une game dans l'Amérique américaine et la Ligue nationale, c'est pas la même chose. Fait que je te comprends là-dessus. C'est un bon point que tu mènes là-dessus. Je pense qu'on a peut-être mal géré l'utilisation de Kaden Primo depuis les deux dernières années, depuis la COVID. Ça va y faire mal, je pense, à long terme. Tu as raison là-dessus.
Oui, parce que même la saison COVID avant, il avait passé quasiment un bon bout sur le taxi
squad.
Donc il n'a même pas joué à moitié.
Exact, exact. Quatrième question et non la moindre. Le Canadien terminera-t-il dans 1, les 5 derniers l'an prochain, 2, les 10 derniers l'année prochaine ou se battra pour une place en série?
Ah, c'est tellement. Tu peux pas répondre à cette question-là parce que c'est pas
plate de fin d'année, ça.
Ça serait plus une question que tu pourrais poser. Aucun entraînement, parce que là, tu sais pas ce qu'il va faire cet été, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Carey Price, tu sais pas s'ils vont avoir Shane Wright ou pas. Mais mon guess, si Price revient en santé l'an prochain, ils vont finir genre peut-être juste en layout du top 10.
Okay.
Je pense pas qu'on fait les séries l'année prochaine.
Dans les 10, 15 derniers, mettons.
Mettons entre 11 et 15 qui vont finir. Là,
la seule que j'avais pas donné, c'est ça.
Ah, vois-tu, j'ai. Bon, ben, aucune de ces réponses.
Tu ne peux pas répondre à ma question, finalement.
Aucune de ces réponses. C'est ma réponse finale.
Écoute, moi aussi, je trouvais ça le fun comme question, mais on est en fin de saison. Puis écoute, tu as raison. Si on est capable, les deux, de se coordonner pour le draft, puis pour les échanges des joueurs autonomes, on pourrait se faire un live. Mais je pense que c'est vraiment là le Canadien. Je pense que Ken Hughes, l'organisation du Canadien, va quand même essayer d'aller chercher des joueurs pour pas patcher, mais aller chercher à long terme des bons joueurs. Mais comme tu dis, on a beaucoup de drafts, on a beaucoup de personnes à pick-up l'année prochaine au niveau du draft. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Mais moi, je les vois peut-être dans les 10 derniers l'année prochaine. Peut-être pas dernier. Je pense qu'ils vont se battre pour les séries jusqu'en milieu de l'année, mais parce qu'ils vont voir, ça va dérouper un peu après.
Dernier, je serais surpris, surtout avec Price dans la formation en santé. Là, je pense pas qu'ils vont, vont être dans les 5 derniers, mettons. Même 10 derniers, je serais pas mal surpris. Il faudrait vraiment, à moins que Price se blesse, c'est pas impossible. Il se blesse au moins une fois chaque année depuis les dernières années. Fait que, c'est plate à dire, mais c'est quand même ça. Là.
Je pense que tu as raison. Si Price peut être en forme pour, mettons, 60. Mettons plus 55 rencontres là, commencées. Je pense que vraiment, Canadien va avoir la chance de peut-être te retomber dans le 11-15, comme tu dis. Je pense que les joueurs vont jouer pour Carey aussi, c'est une autre affaire aussi. Quand Carey Price est dans l'alignement, c'est toujours différent parce que les joueurs en donnent peut-être un petit peu plus. Ils veulent vraiment que ce joueur-là gagne aussi. Donc, tu as raison là-dessus.
Il ne faut pas oublier non plus aussi que en assumant que Martin Saint-Louis va être de retour, ça, il va pouvoir préparer un camp d'entraînement. Il va pouvoir, ça va être vraiment ses choses à lui. Parce que là, présentement, il est venu en relève à Dominique Ducharme, mais il n'a pas le temps tant que ça d'installer ses choses. Là, il va avoir un camp d'entraînement complet. Il va pouvoir prendre ses décisions pour débuter la saison. Fait que je pense que le Canadien va être en meilleure posture aussi avec ça. Puis, on verra bien. Mais moi, la seule chose que j'ai hâte de voir du côté du Canadien l'an prochain, c'est combien de jeunes qu'il va y avoir dans cette équipe-là. Parce qu'il y en a plein qui gagnent à la porte. Là, il y a Harris qui est là, il y a Justin Barron qui est là, Norlinder, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Puis tu sais, est-ce que le Canadien va réussir à mettre la main sur Shane Wright? Est-ce qu'un gars, si mettons le Canadien repêche un gars comme Juraj Slafkovský, qui est un joueur slovaque, Il a joué avec des hommes aux Jeux olympiques. Il a déjà la stature d'un joueur de la LNH. Est-ce qu'il va avoir un essai aussi? Je pense que
Harvey Pinard, on n'en parle pas, mais Harvey Pinard aussi. Harvey Pinard va être capable de jouer sur une 4 ou une 3 à Montréal, d'être performant. C'est une affaire aussi qu'on ne parle pas aussi. Harvey Pinard connaît une bonne saison avec le Rocket.
Moi aussi.
Donc, on a Ilonen aussi. Ilonen, est-ce qu'on va y faire une place l'année prochaine? Je pense que c'est le joueur qui est le plus proche à jouer dans la Ligue nationale. Donc, effectivement, est-ce qu'on va vraiment y aller avec une équipe jeune, puis on va faire un départ, puis essayer de tanker deux années pour aller chercher des choix de première ronde, très, très proche du premier, ou on n'y ira pas? Donc, si j'ai hâte de voir ça, c'est intéressant.
Puis, tu sais, chez le Canadien, ce qui est le fun, c'est même si l'an prochain, ils n'ont pas le premier choix, s'ils peuvent avoir un choix de top 5, là, il y a des joueurs assez relevés là, dans cette QV-là, top 5. Là. On parle de deux talents générationnels en Bedard et Michkov. Ventelli qui est vraiment pas mauvais non plus. Non, il y a du bon stock là, du côté du repêchage de 2023, mais est-ce que le Canadien va être assez mauvais pour se rendre là? Je ne penserais pas, malheureusement, mais au moins, si on peut en avoir un bon cette année, déjà, ça va être un bon pas dans la bonne direction.
Exact. Il ne faut juste pas le manquer et chercher un code Canemi numéro 2.
Oh, rappelle pas de douloureux souvenirs, Stéphane, s'il te plaît. Commence à l'oublier. Écoute, y avait-tu d'autres trucs que tu voulais discuter ou si on close ça de là?
On close ça de là, je pense que c'est un bon podcast.
Ben écoute, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez fait, peut-être en discutant un peu avec vos chumés à gauche et à droite, là, partagez la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Sinon, ben, on vous remercie là, encore une fois de nous suivre là, sur le podcast de Hockey sur demande. Et aussi, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, mon entrevue avec Mathieu Vachon et son livre là, qui devrait sortir cette semaine d'ailleurs, Histoire de Junior. Donc, si vous n'avez pas vu ce podcast-là, allez voir ça. Puis je vous rappelle qu'on va faire tirer aussi un livre là, sur ma page Facebook de Hockey sur demande. Donc, suivez ça attentivement. Ça devrait se faire là, peut-être pas cette semaine, mais dans les prochaines semaines, là, je vais faire tirer ça.
Yes, merci beaucoup tout le monde, puis lâchez pas.
À plus.
Bye.